chapitre 20.
Non, c'est pas moi qui prêche. Je vois des yeux ronds, là. On va lire à partir du verset 10. J'entends encore quelques pages. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, il ne fut trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui était le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Michel.
Merci Jean-Luc. La semaine passée, on a distribué cela. Ceux qui n'étaient pas ici, on m'a demandé de mettre ça disponible pour les gens. Après, notre temps ensemble. Vous savez, dans la vie d'une église, c'est pas à toutes les semaines qu'on prêche sur ces sortes de textes-là, n'est-ce pas? C'est quand la dernière fois vous avez entendu parler du jugement dernier? Levez la main. Est-ce que ça fait un an, deux ans, trois ans, dix ans, 20 ans? Moi, j'ai reculé 14 ans à l'Assemblée, un dimanche soir. Ça fait longtemps, hein? Vous savez, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et avez-vous vu cette semaine la maman qui exprimait sa déception dans le système de justice québécois? Est-ce que vous avez vu, son fils avait été tué par des jeunes? Et ils ont recivi, il y en a des jeunes là-dedans, pas toutes les jeunes, là, mais il y en a quelques-uns qui ont encore tué quelqu'un, et ça, sont soupçonnés encore de meurtre, les mêmes personnes. Et la maman était dans la TV, là, puis elle disait dans l'interview, elle disait, « Je suis déçu du système de justice du Québec. Où est la justice? » Il y a un site Internet qui s'appelle « Pour les citoyens, la justice, ça n'existe pas. » Et là, on cite toutes sortes d'injustices, et j'aurais pu vous en nommer jusqu'à midi. On cite des juges qui ont été injustes, puis qui ont été au-delà de leur mandat, et qui ont fait des choses de pas correctes. Il y a un monsieur qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Livrer la justice, mais quelle justice ?» Et l'auteur, c'est Marc Brière, c'est un juge qui a écrit ça. Puis on remet beaucoup la question, hein, en question la justice humaine. Si vous allez dans d'autres pays, vous allez vous apercevoir que ceux qui dominent, c'est eux autres la justice. Ils déterminent qui va en prison, qui reste libre, qui vit, qui meurt. Et lorsqu'on entend ça dans les nouvelles, on voit l'injustice partout. Y a-t-il une petite voix dans votre cœur, dans votre conscience qui vous dit un jour, il va y avoir une vraie justice. Les pédophiles qui s'en tirent. Avez-vous vu ça à la télévision cette semaine? Le pédophile qui fait semblant de rien comprendre en français, il vient de déclarer qu'il est anglophone, puis ils veulent recommencer le procès qui va encore prendre des années. Vous ne regardez pas à la TV. Hein? Faites bien, c'est négatif. Je la regarde parce que je veux rester connecté avec ce qui se passe dans le monde. On est d'un monde où, ce que, pas rien qu'au Québec, partout, on est déçu de la justice. Et à quelque part dans l'être humain, il y a cette notion de justice. Ça arrive lorsqu'on grandit, ça. Et lorsqu'on est dans la préadolescence, on arrive à l'adolescence, ça va remarquer, c'est pas correct, c'est pas juste. Avez-vous déjà entendu ça des jeunes? Il y a une notion de justice. Tu coupes la barre de chocolat, l'autre n'a un 8 de plus. C'est pas juste, il y en a plus que moi. Avez-vous remarqué ça, comment les gens sont sensibles à ce qui est juste et pas juste? Alors, c'est extrêmement important qu'il y ait un jour un système de justice qui va être parfait. Et dans le plan de Dieu, il y a ce jour-là, où les hommes rendront compte pour le bien et le mal qu'ils auront fait. Où un jour, Dieu décide d'emmener à la justice les êtres humains qu'il a créés. Et nous sommes dans cette portion d'Écriture, dans Apocalypse 20, qui nous rappelle que ça va arriver un jour. Quel privilège qu'on a ce matin! Dans l'an de grâce 2009, d'avoir une fenêtre ouverte sur le futur, d'avoir une fenêtre ouverte sur le plan de Dieu pour l'univers, le dessein de Dieu pour la planète Terre, le dessein de Dieu pour le ciel, le dessein de Dieu pour tout ce qu'il a créé, Dieu est en contrôle et Dieu a un plan. Les mécréants qui s'en sont sortis, que ce soit avec de l'argent ou du mensonge, d'une punition juste sur la planète Terre, un jour vont arriver devant le Créateur et lui qui lit dans les cœurs et qui sait toutes choses va rendre une justice réelle. Et si nous sommes dans ce texte-là ce matin, vous savez, la semaine passée, on a parlé du trône de gloire, Matthieu 25, où ce que Dieu est venu avec son Église donner le millénium à Israël, littéral. Et nous sommes aujourd'hui devant un trône blanc. Et ce qui m'a aidé beaucoup à comprendre toute cette eschatologie, si vous voulez, la chronologie des choses, c'est qu'il faut voir la différence absolument entre le trône de gloire et le trône blanc. Parce que entre les deux, il y a 1000 ans. Entre les deux, il arrive des choses. Avant le 1000 ans, comme on a dit la semaine passée, Satan est lié. Après le 1000 ans, Satan est délié. Et lorsque Satan est délié, il y a une dernière révolte, comme on a vu la semaine passée. Une révolte qui est étonnante. Parce que ça termine le millénium d'une manière surprenante qu'on a vu la semaine passée. Ensuite, on a vu que Dieu a jeté dans l'étang de feu et de soufre cette révolte contre lui. Et nous arrivons à ce grand trône blanc ce matin. Je vous propose que la parole enseigne. Et la parole est claire, il y a deux sortes de résurrection. On a vu la semaine passée, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'auront point de pouvoir sur eux. Et on voit dans Apocalypse 20, 12 et 13, qu'on a, dans ces choses, et je vis les morts, quelles morts? Toutes les autres morts qui n'ont pas pris part à la première résurrection, qui se fait en plusieurs étapes. Alors, Daniel nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Deux sortes de résurrection avec plusieurs étapes. Première résurrection. Mais la deuxième résurrection n'a rien qu'une étape. Alors, on voit là que Daniel avait prophétisé cela. Le dernier jugement. On va voir ensemble qui sera le juge. La destruction de la terre et du ciel, la comparution des morts impies. On va voir ensemble des livres fut ouverts. On va voir ensemble le livre de vie fut ouvert. On va voir ensemble ce matin aussi que chacun sera jugé selon ses œuvres. Et septièmement, le verdict de Dieu. Nous allons voir ces 7 observations ce matin. Et souvenons-nous que nous sommes à la fin du dessein de Dieu pour l'univers. Les deux autres chapitres de l'Apocalypse nous parlent de nouveaux cieux, nouvelle terre, nous parle de notre temps au ciel et se termine par une exhortation en nous, dans l'an de grâce, de lever les yeux. Puis de savoir que Dieu ne tarde pas dans ses promesses, mais les choses vont s'accomplir. Première chose que j'aimerais qu'on souligne ce matin, qui sera le juge? Regardez votre texte. Daniel nous dit ceci, Daniel 7, 9, 10 nous dit, et dans cette prophétie nous dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1 000 milliers le servaient, et 10 000 millions, 1 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Déjà, Daniel, à son époque, Dieu avait dit des choses et livrait à Daniel des secrets du futur, du destin de l'univers. Jésus-Christ, Actes 17, 30, 31, l'apôtre Paul, ici, lorsqu'il va prêcher, va dire ceci, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir dans l'an de grâce dans lequel nous sommes, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ est le seul juge. C'est lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de Juda. C'est lui, le fils de l'homme. C'est lui qui est 100% Dieu, 100% homme. Un jour, s'assoit sur ce trône blanc pour juger. » Dans notre texte, on voit aussi la destruction de la terre et du ciel. Et c'est intéressant, lorsqu'on regarde cela, on peut argumenter, il y a deux positions dans le monde évangélique. Il y en a qui croient que ça va être la rénovation de la terre, il y en a qui croient que ça va être une création tout à fait nouvelle. Et ce que je crois aussi, c'est tout à fait nouveau, tout simplement parce que l'expression qu'on trouve là, « il ne fut plus trouvé de place, topos », nous parle que le jugement ne se fait pas dans une place spécifique, c'est dans l'espace. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de place à se cacher. Et topos, c'est ce qu'il veut nous dire, il n'y a plus de place à se cacher. Et lorsqu'on vous allez être sur nouveau sur une nouvelle terre, lorsque vous allez creuser sur la plage, vous n'allez pas trouver un bouchon de bière en creusant. Ça va être tout nouveau. C'est nouveau sur une nouvelle terre. Donc on voit lorsque le trône blanc arrive, lorsque le dernier jugement arrive, la terre et même le ciel qui a été corrompu par Satan et ses acolytes, les anges qui l'ont suivi, va être anéanti, va disparaître, il n'y a plus de place pour eux. Et Dieu s'assoit dans l'espace vide et va juger là ceux qui sont devant le grand trône blanc. Plus de place pour eux, plus de place à les mettre dans l'espace vide de l'univers. Ça va être le trône blanc et tous ceux qui sont là vont être là dans l'univers. Ésaïe 51:6 nous dit ceci, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches globales. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'auront point de fin, nous dit le prophète Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ. » Hébreux 1, 10 et 12 vont nous dire ceci. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. On change complètement. Alors, le mot est très clair là. Avant, c'était la vieille, la nouvelle s'en vient. Et c'est ce qu'on nous dit dans notre texte. La troisième chose qu'on peut regarder ensemble, qu'on doit regarder ensemble, c'est la comparution des morts impies. C'est intéressant ici, le texte nous dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. » Ceux de la deuxième résurrection. Ceux de la première résurrection ne sont pas là. Il n'y a pas un juste, un enfant de Dieu devant le trône blanc. Tous ceux qui sont là, c'est ceux qui sont là pour recevoir un jugement. Il n'y a pas un chrétien qui est là. Il n'y a pas un juste de l'Ancien Testament qui est là. Et n'oublions pas Romains 8:1 qui nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et ça réfère à ce grand trône blanc. Parce que Christ a subi la punition à notre place. Il est terriblement important de savoir qui est devant ce trône blanc. Qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Qui est alentour de Jésus-Christ? Il y a l'épouse, il y a les saints de l'Ancien Testament, il y a les martyrs de la grande tribulation, il y a ceux qui ont combattu et vaincu la bête dans le temps de la grande tribulation. Tous ces justes qui, par la foi, ont regardé à Christ comme étant celui qu'il est, le Sauveur, le Messie. Ceux de l'Ancien Testament, par anticipation, ont cru au Messie qui s'en vient. Et ceux du Nouveau Testament ont cru le Messie qui est venu. Et une belle image que j'ai lue déjà, si je trouve ça intéressant, c'est comme un père qui a 7 enfants qui vont au cirque. Les 3 premiers enfants qui passent en avant disent « Mon père va payer en arrière » et les 4 autres enfants derrière le père disent « Mon père a payé en avant ». Il est extrêmement important ce matin qu'on sache que Dieu va rendre un dernier jugement. Ceux de la deuxième résurrection. Qui que c'est? Les morts rendit ses morts. La mère rendit ses morts, excusez. Et c'est intéressant avec la mère parce que dans l'Ancien Monde, on avait toutes sortes de superstitions concernant la mère. On croyait que la mère était remplie de toutes sortes de morts qui était là, figé dans la mer. Et c'est intéressant ici qu'on parle de la mer qui rendit ses morts. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. C'est-à-dire tous ceux qui sont morts sans Christ, tous ceux qui sont morts sans Dieu. On appelle ça les impies, les sans-Dieu, les païens, c'est-à-dire ceux qui ont fait fi de Dieu et ont vécu leur vie comme qu'on voulut. Et ils ont biffé tout simplement Dieu de leur existence. C'est tous ceux-là qui sont devant le trône blanc. Il y a des livres qui furent ouverts. Et c'est intéressant, des livres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Bien, la plupart des commentateurs vont vous dire dans ces livres contiennent les paroles et actions des hommes, les paroles et actions des hommes impies. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu sait tout ce qui s'est passé. Dieu sait toutes les paroles, toutes les actions des hommes depuis le commencement de l'éternité, depuis le commencement de Satan qui, le premier dans son cœur, a commencé à dire « Je serai semblable à Dieu, je vais prendre la place de Dieu ». Dieu sait tout ça. Dieu n'a pas un problème de mémoire. Dieu n'a pas un problème de connaissance. Dieu est en contrôle. Et c'est ce que Jean est en train de nous dire, inspiré du Saint-Esprit. Ne croyez pas que ces actions criminelles, ces actions anti-Dieu, qui soient faites en secret ou public, Dieu les connaît. Et ces livres-là sont ouverts. Ces livres-là sont ouverts. Job nous donne une petite lumière. Job 34, 21 nous dit, « Car Dieu voit la conduite de tous. » Il a les regards sur les pas de chacun. Est-ce que c'est-tu capotant, ça? Ça ne vous tente pas de paniquer un peu, de savoir tout ce que vous faites en secret, que ce soit dans les toilettes, dans le bois, où personne ne vous voit? Hein? À 3 heures du matin, quand on se glisse, là, pour aller voir des affaires pas correctes sur Internet, je vois ça. Les pensées d'adultère, de convoitise. Dieu voit tout ça. Et Dieu enregistre tout ça. On a-tu besoin du pardon entre moi et vous? Hein? On a besoin du pardon. Le livre de vie fut ouvert. Qu'est-ce que le livre de vie vient faire là? Bien, c'est la preuve que les noms des perdus n'y figurent pas. C'est un livre qui est là, qui montre que toute bouche va être fermée. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ce livre revient souvent dans la parole de Dieu. Regardez, Paul parle de ses compagnons. Mes compagnons qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ce livre-là est un livre extraordinaire. Moïse, dans son épisode de découragement face à la rébellion, le courette d'Israël, va dire ceci. Moïse intercédant pour son peuple, s'écria, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse en réponse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Et c'est extrêmement important que nous réalisons ensemble ce matin que Dieu a un livre. Et ce livre-là est ouvert. Et lorsque on regarde dans ce livre-là, il y a des places où il y a des trous dedans. Il y a des places, il y a des noms qui ont été enlevés, si on veut. Et ceux qui sont dans le livre sont déjà ressuscités, sont déjà avec Christ, ils ont déjà un corps nouveau. Mais ceux qui sont là devant le trône blanc n'ont pas cela. C'est la seconde résurrection en une étape. C'est le dernier jugement. Et c'est Dieu qui se prononce. Et Dieu rouvre des livres de souvenirs, des livres des actions mauvaises des hommes. Pour faire rendre compte aux hommes, il rouvre un livre de vie pour montrer la preuve qu'ils ne sont pas écrits dans ce livre. David, dans le psaume 69, lorsqu'il parle des ennemis de Dieu, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec justice. Voyez-vous cette notion que Dieu tient des inscriptions? Dieu tient des records. Dieu tient un agenda. C'est tout écrit. C'est tout là. Écrit pas parce qu'il pense de l'oublier, écrit pour nous le montrer. Et toute bouche va être fermée devant Dieu. Même Jésus, dans Luc 26, va dire ceci. Jésus, enfin, déclara cependant, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont été soumis. » Parce qu'il vient d'envoyer ses disciples d'une manière tout à fait spéciale. Et le Seigneur les envoie en mission, puis ils reviennent. Et ils ont eu un succès extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils ont bâti la crédibilité du Seigneur et la crédibilité des disciples en faisant des signes, des prodiges, des miracles. Et le Seigneur dit, « Réjouissez-vous pas de ça. » Mais réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans les cieux. C'est-tu merveilleux? Ce livre de vie est un livre extraordinaire parce qu'il parle de nous. Dans l'an de grâce 2009, nous les croyons, les croyants qui avons accepté Christ comme sauveur personnel. Ici, chacun sera jugé selon ses œuvres. R.C. Sproul commence son enseignement. Il est décédé dernièrement, mais j'ai écouté des CD il y a plusieurs années. Ça s'appelait Blueprint for Humanity. Le dessin de Dieu pour l'humanité. Puis il commence son étude, c'est une école biblique aux États-Unis qui donnait, en posant la question, est-ce que Dieu va envoyer un pauvre monsieur d'Afrique, d'une tribu, qui est innocent en enfer? Et là, c'est toute une question. Et là, il va passer, pas comme moi, là, mais lui, il va passer plusieurs heures à débattre ça. Puis la réponse à la question, c'est non. Dieu n'enverra pas un pauvre innocent en Afrique ou à l'Alaska, au Cap de la Madeleine, en enfer. s'il est innocent? Puis sa réponse, c'est qu'il n'a pas d'innocent. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est entré par un homme, Romains 5, 12. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Mais la grâce et la justice est entrée par un homme, Jésus-Christ. Donc, Dieu a-t-il le droit de juger sa création? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que dans le plan créationnel de Dieu, la mort ne faisait pas, dans le premier scénario de Dieu, la mort ne faisait pas partie de son plan. Pense à ça. La mort spirituelle et la mort physique ne faisaient pas partie du plan de Dieu dans son premier scénario. Il avait donné à l'homme trois beaux cadeaux, une intelligence pour réfléchir, une sensibilité pour entretenir des relations d'amour avec Dieu et ses semblables, puis il lui a donné un libre arbitre. Et le premier plan de Dieu, le premier scénario de l'humanité, c'est que l'humanité était pour vivre avec Dieu dans le paradis et avoir une communication avec Dieu, une joie merveilleuse. En fin de compte, qui va égaler ce qu'on va voir nouveau ciel, nouvelle terre, un peu plus loin. C'est qu'on se rejoint dans ce sens-là. Et c'est pour cela que l'homme, il a utilisé son libre arbitre pour désobéir à Dieu et dire à Dieu, je vais faire ma vie sans prendre garde à ce que tu dis. Et à cause de cela, à cause de qui est Dieu dans sa sainteté, sa justice, Dieu est obligé de juger le péché. Parce que le mot péché, dans son sens premier, veut dire que l'homme manque le but pour lequel il a été créé. Et le premier péché d'Adam et Ève, c'est un péché relationnel. Ils ont décidé de rompre avec Dieu, avec ce que Dieu dit. Et c'est pour cela que Dieu, dans le dessein de l'univers, doit un jour faire rendre compte aux hommes du mal, du des crimes et de la rébellion contre lui. Mais il nous aimait tellement. Il nous voyait tellement mal pris que décidé tout de suite après la chute, puis la première promesse, Genèse 3, 14, 15, la postérité de la femme écrase la tête du serpent. Il a décidé d'envoyer un Messie, un Sauveur, Jésus-Christ, pour nous enlever de cette condamnation. C'est Jésus-Christ. Il a dit à ses douze, je vous donne une bonne nouvelle pour vos contemporains. Savez-vous quoi la bonne nouvelle? Vous n'avez pas à comparaître devant le trône blanc si vous croyez qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Il y a une grande argumentation dans Romains 2 et je vais embarquer dedans. Je vais souligner les points saillants qui soutiennent tout ce que je viens de dire. Et plus, parce que c'est l'Écriture qui parle. L'Écriture affirme à 42 reprises que l'homme doit être jugé selon ses œuvres. Le jugement sera personnalisé à chaque âme perdue. Chaque personne, c'est comme le salut, à fin de compte. C'est personnalisé, là. Ce ne sera pas, moi j'ai mis ma confiance dans M. X, lui il me disait quoi faire, puis il est responsable de mon âme. Non, non, c'est toi. Toi, toi, toi. On a chacun à rendre compte devant Dieu pour nos gestes et actions. Le jugement devant le grand trône blanc, des livres furent ouverts, les détails sont là. Tout le monde est jugé personnellement, selon leurs œuvres, et c'est personnalisé. Le roi des rois ne se lève pas du grand trône blanc et regarde toute cette foule et dit, vous êtes tous des pas bons, allez-vous-en chez vous. Allez-vous-en loin de moi. Non, non. Il prend le temps de fermer toutes les bouches, un à un. Le jugement sera selon les accusations écrites dans les livres, justement, qu'on a vus. Les livres au pluriel. Alors, vous avez remarqué, il y a singulier pluriel pour les livres. Il doit en avoir un paquet. C'est des rouleaux, Biblias, des rouleaux. Et un par un, Dieu va passer ses accusations. Le juste jugement de Dieu. Romains 1 à 16. Tournez vos Bibles dans Romains 1 à 16. Je l'ai quand même mis avec des couleurs dans ma présentation de PowerPoint. Mais vous êtes capable de suivre moi et votre Bible. Tournez-la. C'est la grande argumentation. Ô homme, Paul discute. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà pourquoi la justice humaine n'existe pas. Parce que les juges eux-mêmes, et j'aurais pu vous emmener des juges qui ont été condamnés à toutes sortes de crimes, les juges eux-mêmes qui jugent font la même chose que les criminels. Font la même chose. Quelle chose? Et là, Romains 1, 28 à 32, il y a 21 traits qui décrit la société d'aujourd'hui. On ne les verra pas, on n'a pas le temps. C'est le journal de Montréal d'un matin, c'est le journal de Montréal de demain, c'est le journal de Montréal d'un an, d'un mois. C'est tout là. Il y a 21 traits qui décrit l'humanité sans Dieu, à partir du verset 28 à 32. Et quand on dit ces choses, l'apôtre se réfère à cela, ce qu'il vient de dire. Ceux qui sont des ingénieurs au mal. Seul endroit dans la parole de Dieu que le mot ingénieur est employé, c'est là. Les ingénieurs de mal font ces choses. Et là, Paul va dire, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre tous ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. On lit ça nous-mêmes, on dit, ah, c'est vrai, il mérite une condamnation. L'argument va comme ceci, et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? L'apôtre Paul veut nous sensibiliser. Toi qui juges, toi qui n'es pas condamné, toi qui ne dis pas criminel, penses-tu que tu vas échapper à ça? Ben non. Parce que Dieu, il y a un juste jugement qui vient. Le verset 4 nous dit, « Ou méprises-tu la richesse et sa bonté et sa patience de sa longanimité, ne reconnaissant pas la bonté de Dieu, te pousse à la repentance? » On est dans l'an de grâce, dit Paul. Reconnais que tu es pécheur, reconnais que tu es un criminel devant Dieu, même si devant tous les autres, tu penses que tu passes pour être bien correct. Reconnais que Dieu a été miséricordieux envers toi, a été patient envers toi, et Dieu t'appelle à la repentance. Voyez-vous, Paul est en train d'argumenter, afin que tous se voient pécheurs, privés de Dieu. Si on ne se voit pas pécheur, on n'a pas besoin de sauveur. Si on ne se voit pas perdu, Jésus-Christ est mort pour rien. Voyez-vous? Parce que l'effet de la mort de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et je la refuse, je ne me vois pas pécheur. Regardez, verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu as amassé un trésor de colère pour... » Justement, ce qu'on est en train de voir. « Le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon... » ses œuvres. Prenez pas Dieu pour un vieux papier à barbe blanche qui fait de l'Alzheimer. S'il vous plaît. Appelez-les pas le bonhomme d'en haut ou le Dieu tel que je le conçois. Non, 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 non. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, dans notre société démocratique et tout, la théocratie de Dieu est considérée comme un fanatisme. Mais Dieu est souverain. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est amour. Et sachons que Dieu est toutes ces choses-là. Verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Cherchez-vous l'immortalité? Venez à Christ. Cherchez-vous à vivre éternellement auprès de Dieu, venez à Christ. parce que la bonne nouvelle est encore accessible dans l'an de grâce 2009. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Est-ce que vous vous plaisez dans l'injustice? Vous pratiquez l'injustice? Il y a une prophétie, irritation, colère. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. L'apôtre Paul va dire « Tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec. » Parce que dans ce temps de l'apôtre Paul, il y en a qui disaient « Ah, les juifs sont un peu meilleurs que les grecs. » Non, non, Paul dit « Tout le monde. » Ceux qui sont juifs et ceux qui sont les non-juifs, tous ont besoin d'un sauveur. Tous ont besoin de reconnaître qui ont une prédisposition très, très, très facile d'être des ingénieurs de mal, de faire du mal, se révolter contre Dieu et construire notre vie sans Dieu. Le verset 10 va dire « Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Bénédiction de Dieu pour ceux qui se mettent en règle avec Dieu. » J'ai bien aimé la citation de Calvin qui dit « La foi seule sauve, mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. » Attention de s'assire sur nos lauriers. Là. Je suis sauvé, j'ai Jean 3,16 dans mon portefeuille. Oh, même si je rentre au ciel et les portes du ciel me pincent les fesses, pas grave, moi, être là. Faites attention. Revisez votre mode de vie. Revisez votre consécration, revisez l'importance de la sanctification, de la lutte contre le péché qui fait la guerre à nos âmes. Révisons ça un peu. Et voici ce qui est intéressant. Mais quel barème au grand trône blanc Dieu va prendre? Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Dieu va prendre leur propre loi pour les juger. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tu te fais une loi pour toi-même, Dieu va te juger avec la loi que tu t'es faite. Tu t'es viré de bord, tu as pris les 10 commandements, tu as dit, moi j'ai suivi les 10 commandements, j'ai pris la loi pour me sauver. Ça ne marche pas. Personne ne peut accomplir les 10 commandements. Jésus-Christ l'a accompli pour nous. C'est pour cela que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, comprenez-vous? Et celui qui va être devant le grand trône blanc, avec les 10 commandements et les œuvres de sa vie pour gagner le ciel, va dire non, tu as passé à côté, mon gars. Tu vas passer l'éternité à te mordre les lèvres en disant, comment se fait ça? J'ai travaillé tellement fort pour mériter le ciel. Puis le Père va lui dire, « Qu'as-tu fait de mon fils qui est mort à ta place, qui a vécu une vie parfaite, lui, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tâche? Qu'as-tu fait de lui? » Paul, il va continuer en disant, « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Voyez-vous, Dieu, il n'est pas impressionné. Quand je cite un verset, Dieu n'est pas impressionné. Pas impressionné par tout. Il n'est pas choqué. Il n'est pas impressionné. Si je veux impressionner Dieu, là, c'est vous ce que je fais? Je mets en pratique ce que je cite. Je suis comme vous autres dans le même bateau en train de ramer. C'est pas facile des bouts. Comprenez l'idée? Mettre en pratique la parole. On peut se promener ici avec des grosses bibles usées, là. On peut chanter des cantiques bien, bien fort. Mes amis, quand vous sortez dans ce monde pervers et corrompu, vous êtes encore chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien à table du Seigneur, puis dimanche, j'espère. Comprenez-vous? Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Vous savez, il y a certaines tribus très, très fond, qui ont une éthique, hein? Savez-vous ça? Ils ont toutes des éthiques. Hein? Savez-vous, dans certaines places, là, prendre la femme de son voisin, là, c'est coupable de mort. Encore aujourd'hui. Ce n'est pas des chrétiens. C'est une loi pour eux-mêmes. Il faut savoir que Dieu nous dit que chacun recevra selon ce qu'il a semé. Celui qui va savoir beaucoup de coups et d'autres peu de coups. Comme qu'il y a une échelle de récompense au ciel, il va avoir une échelle de punition loin de Dieu pour l'éternité. Et certains vont être battus de peu de coups et d'autres de beaucoup de coups. Et c'est le barème que Dieu va utiliser. Un être humain ne peut pas faire ça. Dieu sait tout. Lui, il va être capable. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est que même s'ils n'ont pas cette notion que nous avons et cette connaissance que nous avons, il y a quelque chose dans leur conscience. Et lorsqu'ils vont arriver devant le grand trône blanc, Dieu prend en compte toutes ces choses-là. Vous voulez que la plus grande, vous voulez que je vous fasse peur? Moi, je crois que celui qui va être puni le plus au ciel, c'est ceux et celles qui sont assis dans une réunion évangélique toute leur vie, puis qui ont fait fi de Christ, puis qui ont fait semblant d'être chrétiens. Ils vont être jugés plus sévèrement que Joe Blow, qui n'a jamais rien entendu. Vous comprenez l'idée? Puis je vous dis, on a reçu beaucoup, on va être demandé. Beaucoup. N'oublions pas. Dernier verset. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Angelias, selon l'apôtre Paul, l'évangile qu'il prêchait, il ne prêchait pas un évangile bonbon. Il ne prêchait pas un évangile de prospérité. Il ne prêchait pas un évangile, viens au Seigneur, tu n'auras plus de problème de couple. Viens au Seigneur, tu vas sortir du bien-être. Viens au Seigneur, au lieu de te promener avec un Volkswagen, tu vas te promener avec un Cadillac. Non, non, ce n'est pas ça son langage. Viens au Seigneur, tu n'auras plus mal au dos. Non, si tu as deux hernies, tu es foutu, tu as mal au dos le reste de ta vie. Il dit, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est épeurant, ça? L'évangile de la peur à matin. La crainte de Dieu, ça existe encore en 2009. Est-ce qu'on craint Dieu? Cette grande révérence envers Dieu. Des fois, on chante le cantique, je ne me souviens plus du titre, « Tout tremblant ». Tu sais le cantique qu'on chante, là? Comment il s'appelle? « Tout tremblant, je viens vers toi ». Ah, c'était bon, ça. Moi, je pense à ça tout le temps quand on chante ce cantique-là. Il s'approche de Dieu tout tremblant. On s'approche de Dieu tout tremblant. C'est bon s'approcher de Dieu tout tremblant. Au lieu de se péter les bretelles devant Dieu et de dire, « Dieu, je mérite ta bénédiction. J'ai été à la chapelle 3 fois par semaine. Je lis ma Bible 10 minutes à tous les matins. Je prie au repas. Je ne mérite pas de perdre ma job. Mon voisin bat sa femme. Il n'est pas chrétien. Il travaille à la même place que moi. Et moi, j'ai été slacké, lui, a gardé sa job. Dieu, tu es injuste. » Hein? Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Je lis ça, là. Je suis donc content que quelques chapitres plus loin, 7 chapitres plus loin, dans le chapitre 8, c'est marqué, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sauvés par le sang de l'agneau. On a 3-7. Le verdict, terminé. Le verdict est très explicite, hein? 14-15. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ton nom n'est pas dedans. Tu vas rejoindre les autres qui est là. Qui? La bête, les faux prophètes, Satan. C'est intéressant pour le verdict. Je vais dire ceci. La seconde mort a déjà été mentionnée au verset 6. Elle correspond à la condamnation à être jeté dans les temps de feu et de soufre. On l'a vu, ça, pour ces gens-là. Le verdict est décrit avec 22 termes différents, nous dit René Pache. C'est intéressant de voir que les termes comme les vers rongeurs, la honte éternelle, les pleurs et grincements de dents, les ténèbres, la ruine, etc. C'est toutes des descriptions, ce qu'on peut appeler l'enfer, que le mot n'est pas dans la Bible, là, mais que communément on appelle l'enfer, n'a pas toujours existé. Ce lieu de tourment n'a pas toujours existé. Ce n'est qu'à la rébellion de Satan et des tiers des anges que Dieu a préparé un feu éternel où ils seront jetés dans les tourments. Dans le plan initial de Dieu, la mort physique, la mort spirituelle, les lieux de tourment, l'enfer communément appelé, n'était pas dans le plan de Dieu. Ça a été créé à cause de la rébellion dans le cœur de l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, qu'un jour, lui qui était un ange extraordinaire, assis devant la présence de Dieu, a décidé dans son cœur orgueilleux d'être comme Dieu et prendre sa place. Et nous sommes l'enjeu d'une guerre spirituelle. Nos âmes sont là et le diable veut nous séduire comme que séduit nos premiers parents. Il veut détruire notre vie avec Dieu. Il veut faire encore la même chose aujourd'hui. Puis en passant, il prend la même stratégie. Il prend les mêmes choses pour faire la même chose. Parce que le cœur de l'homme ne change jamais. Trois choses qui ne changent jamais. Dieu ne change jamais. La parole de Dieu ne change jamais. Et le cœur de l'homme ne change jamais. C'est pour ça que l'Évangile fonctionne dans toutes les époques, dans toutes les cultures. Et ça va toujours continuer comme ça parce que l'Évangile s'adresse au cœur de l'homme. Et c'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui a fait la machine. Et c'est pour cela que l'Évangile est puissant. Et c'est pour cela que le mandat de l'Église d'aller par toutes les nations faire des disciples ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd concernant l'épouse de Christ. La bête et les faux prophètes précipiteront. Les faux prophètes précipiteront Satan. OK, c'est ça. Va trop vite, là. 1000 ans avant. Ça, je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi. OK, les expressions bibliques, une effroyable réalité. Et là, je vous ai mis celle que j'aime le plus, naturellement. C'est Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10, qui dit, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, êtes-vous sûr qu'il va venir? » Êtes-vous sûr? Oui, bon. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà la définition de ce lieu de tourment par excellence. Je trouve que Paul a vraiment mis le doigt dessus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire, de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, Dieu use la patience. Et je termine avec ça. Dieu, oui, va emmener tout homme en jugement. En passant dans la première résurrection, sachons que la première stop, le premier arrêt que nous avons, c'est devant le tribunal de Christ, n'est-ce pas? Le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Non pas pour savoir si on va être puni, mais avoir les récompenses et de rendre compte pour le bien et le mal qu'on aura fait aussi. On l'oublie, hein, cette moitié de verset-là, souvent. 2 Corinthiens 5:10. Regardez bien. On est dans l'an de grâce 2009. Parce que je ne voulais pas finir avec tout le monde s'en va dans l'étang de feu. Je voulais finir en réalisant qu'on est en 2009. On n'est pas rendu là, là. C'est une fenêtre ouverte vers le futur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La volonté de Dieu dans l'an de grâce 2009, c'est qu'il n'y ait personne ici qui soit devant le trône blanc qu'on vient de voir. Puis j'espère que vous avez cette assurance de ne pas être là. Si vous n'êtes pas certain, certaine, venez me voir après la réunion. On pourra en parler. Mais on le voit, la volonté de Dieu. Tous doivent arriver à la repentance. Accepter qu'on est des criminels. Accepter qu'on est des pécheurs. Et prendre le sacrifice de Christ au sérieux. Prions. Seigneur, on est sous ton regard, un regard de flamme. Rien n'est caché, rien n'est couvert. On a parlé de choses difficiles ce matin. On a parlé de la fin de l'humanité telle qu'on la connaît, nous, aujourd'hui. Et on est heureux d'être ici en 2009 parce que ce n'est pas encore arrivé. Tu es un Dieu qui est patient envers l'humanité. Un Dieu qui désire que tous arrivent à la repentance. Et tous aient la vie éternelle. Seigneur, fais de chacun de nous des bâtisseurs de paix. Fais de chacun de nous, Seigneur, des ouvriers de paix avec cette bonne nouvelle que nous avons pour nos contemporains, afin qu'aucune personne que nous connaissons puisse se ramasser devant ce grand trône blanc un jour, mais qu'il puisse être avec nous, en Jésus-Christ, assis en Christ sur ce trône blanc, étant l'épouse de Christ. Seigneur, parle à nos cœurs et dirige-nous selon ta volonté, pour la gloire de ton nom. Amen. Merci de votre patience.